On va maintenant inviter M. Guy Lavoie à venir nous présenter la parole de Dieu. Guy, c'est un... Oh, Stan m'avait dit qu'il fallait que je trouve ça. Guy n'a pas besoin d'être présenté pour la majorité d'entre vous, mais laissez-moi le présenter pour les quelques-uns qui ne le connaissent pas. Guy est un de ces héros de la foi pour nous, même si à ses yeux, lui-même, je l'ai entendu je ne sais pas combien de fois nous dire qu'il était un pécheur, uniquement par grâce, qu'il marche avec le Seigneur. Mais c'est certainement un des pères dans la foi pour plusieurs d'entre nous, un homme persévérant qui a une priorité dans sa vie, annoncer l'Évangile et inviter l'Église à annoncer l'Évangile à ceux qui sont perdus. Guy a eu un ministère dans ma vie envers moi lorsque j'ai fait JBEC, un ministère d'évangélisation pendant l'été pour les jeunes. Il a eu un ministère puissant dans la vie de mon épouse aussi, qui a fait JBEC deux fois, dans la vie de plusieurs ici qui ont fait JBEC à l'époque. Et ça nous fait plaisir de l'inviter pour tourner dans la parole avec lui, mais aussi pour vous inviter à considérer sérieusement, je m'adresse aux jeunes gens, à considérer sérieusement de sacrifier. Je sais l'argent que vous faites dans une été. J'en suis conscient. Lorsque j'ai décidé de faire un JBEC, le travail que Dieu m'avait donné, c'était préposé aux bénéficiaires, syndiqué. D'accord? C'est une bonne job d'étudiant. Je suis allé voir mon employeur. J'avais à cœur d'aller faire un JBEC. Je lui ai dit, est-ce que c'est possible que je quitte mon emploi et que vous me repreniez à l'automne? Ils m'ont dit, Yannick, on va être franc avec toi, tu es un étudiant, c'est pour l'été qu'on te veut. Alors, si tu pars, on ne te reprend pas à l'automne. Je renonçais à pas mal d'argent. Pour ce temps-là, c'est un bon salaire, je peux vous l'assurer. Et par la foi, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, si c'est ça que ça coûte, je vais le faire. Et par la grâce de Dieu, j'ai été béni cet été-là. Ça a été un été tellement difficile. Je ne sais pas si tu te souviens, j'étais avec Michel. Nous, on était à Bécomo, 5 semaines seuls à Bécomo, pas de pasteur pour nous encadrer. Ça a été un été vraiment difficile, mais tellement bénissant. Et dans sa grâce, le Seigneur a fait que le même employeur m'a embauché lorsque je suis revenu après. Il a béni le pas de foi que j'avais fait. Alors, conduis-nous dans la parole, Guy, s'il te plaît.
Quelle introduction passionnante, n'est-ce pas? Tea for Jesus. Ces gars-là, cette dame-là, étaient prêtes à prendre la prédication ce matin, la tribune en avant, puis on ne se serait pas endormi du tout, n'est-ce pas? Hein, Yannick, on ne se serait pas endormi? Pas du tout. Ils avaient tellement de choses à nous dire ce matin. Je me rappelle, une fois, j'ai invité Guy Leduc à venir chez nous, à Terrebonne-Mascouche, mon église locale, puis je l'avais invité pour l'école du dimanche à 9h30. Et puis, 9h30 arrive, Guy n'est pas là, 9h35, Guy n'est pas là, 9h40, Guy n'est pas là. On dirait que les Guy sont tous comme ça, hein? Moi-même, j'ai de la misère d'arriver à l'heure, généralement. Je suis toujours un petit peu en retard. Mais Guy Leduc arrivait pas. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Comment ça se fait? Pourtant, on avait bien communiqué. La veille, on s'était vu pour communiquer comme ça. Finalement, il s'est jamais présenté à l'école du dimanche. Il est arrivé juste pour l'heure du culte, un peu plus tard, dans l'avant-midi, pour la prédication. Et j'ai dû prendre la parole. Mais Dieu merci, j'avais été dans une conférence juste le vendredi soir, samedi qui avait précédé. J'étais rempli de ce qui avait été partagé. Alors, dans l'heure de l'école du dimanche, j'ai pu ouvrir mon cœur, partager ce que j'avais entendu, et ça valait la peine. D'autres sont venus me voir après, et m'ont dit, c'était tellement intéressant ce que tu as dit. J'aime ça quand on dépend du Saint-Esprit de cette façon-là. Hein? Rien de préparé, t'arrives, t'as quelque chose à dire, t'as été rempli la veille par une conférence, où on a ouvert la parole de Dieu avec toi, et c'est tellement intéressant. Prions Dieu, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, nous sommes dans ta présence ce matin. Tu as dans ta grâce mis quelqu'un sur notre route pour nous parler de ton fils Jésus. Quelqu'un qui a ouvert la Bible avec nous. Quelqu'un qui nous a montré peut-être un verset de la Bible qui était tout à fait suffisant pour nous ouvrir les yeux, nous amener à voir Jésus tel qu'il est dans sa gloire, le Fils de Dieu, Dieu lui-même venu sur la terre comme un homme qui a vécu parmi nous avec une puissance tout à fait extraordinaire. Capable de guérir les malades, capable de chasser des démons, capable de ressusciter les gens d'entre les morts, et même plus encore, capable d'aller sur la croix, porter les péchés du monde entier, mourir, être enseveli et ressusciter 3 jours après parce qu'il est Dieu. Seigneur, nous avons un message puissant à partager. Et le Seigneur Jésus a besoin de nous aujourd'hui. comme il avait besoin de disciples en son temps pour pouvoir communiquer l'Évangile après son départ. Et jusqu'à son retour, nous avons besoin d'annoncer cette bonne nouvelle. Seigneur, utilise-moi ce matin, remplis-moi de ton Saint-Esprit, donne-moi d'être un instrument entre tes mains, un messager qui va partager ce qui est écrit dans ta parole. Et Seigneur, conduis-nous à être des instruments utiles entre tes mains, qu'on puisse être des serviteurs de Christ dans le monde dans lequel on vit, qu'on puisse être des messagers de l'Évangile dans les villes et villages du Québec, de maison en maison, parmi nos connaissances, avec ceux avec qui on travaille, ceux que l'on rencontre, en allant au magasin, en allant se divertir, en allant en vacances, en allant en voyage, qu'on puisse être en mesure de partager l'Évangile autour de nous. Notre Dieu, bénis-nous ce matin pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Il y a quelques années, dans Gibec, j'ai composé une chanson. Ça dit, il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent sur la terre. Et il y a des années également, j'ai eu l'occasion avec Gilles Paquin, pasteur à l'église de Châteauguay, et sa femme Michel. Ils avaient fait une cassette de chansons, compositions principalement de Michel, mais la musique venait de Gilles. Puis ils avaient entendu cette chanson dans Gibec. Alors, ils m'ont demandé si je voulais la chanter avec eux autres sur la cassette. C'était très surprenant de ma part. Mais des fois, on peut communiquer par la parole, comme ça, en parlant. Mais des fois, on peut communiquer avec une pièce de théâtre. Des fois, on peut communiquer avec une chanson qu'on a composée, qu'on aime partager. Et je l'ai amenée ce matin, il est sur le bureau. On va la jouer, mais en même temps, vous avez les paroles qui sont là. En fait, la musique est là, je ne la chanterai pas nécessairement, là, mais vous allez pouvoir suivre les paroles avec la musique, s'il vous plaît.
Il y a encore de l'espoir pour tous ceux qui vivent sur la terre. On se revoit la nuit sur la gloire, sortis en vainqueur du calvaire. Si ensemble dans la prière, nous nous unissons entre frères, ce salut annoncé naguère brisera les cœurs des plus fiers. Peut-être ta mère, tes sœurs ou tes frères, peut-être bien ton père, Dieu répond à la prière. Tu as témoigné sans succès, tu t'es demandé pourquoi faire, tu t'es refroidi à l'excès, et plusieurs s'en vont vers l'enfer. La parole nous dit comment faire, il nous faut aller dans prière. Dieu peut conduire un de nos frères, moissonner et Dieu saura.
Vous pouvez embarquer dans le refrain.
Ta mère, tes sœurs ou tes frères, peut-être bien ton père, Dieu répond à la prière.
Si vous savez, vous allez chanter.
Dieu nous a donné le message, sa puissance et sa direction. Du plus simple comme au plus sage, prions Dieu pour la conversion. Jésus a vécu la passion, la mort et la résurrection. De mes frères et en son nom, levons-nous, allons, témoignons. Peut-être ta mère, tes sœurs ou tes frères, peut-être bien ton père, Dieu répond à la prière. Peut-être ta mère, tes sœurs ou tes frères, peut-être bien ton père, Dieu répond à la prière.
Il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent sur la terre, pour ceux qui vivent au Québec, pour ceux qui vivent dans ma rue, pour ceux qui sont dans ma maison, pour ceux qui sont dans ma famille, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, mes connaissances, mes compagnons de travail, les gens que je rencontre sur la rue, toutes sortes de gens que Dieu place sur mon chemin parce qu'il veut m'utiliser comme un missionnaire. Nous avons une mission et cette mission vient directement du Seigneur Jésus. Moi, quand je suis venu au Seigneur, j'avais 24 ans. Je n'avais jamais tenu une Bible dans mes mains, ou presque. Je ne connaissais même pas ce que c'était une église évangélique. Je n'avais jamais entendu parler de Jésus comme mon sauveur personnel. J'avais eu jamais eu d'école du dimanche dans ma vie. Jamais eu d'histoire biblique avant de me coucher. Ma femme qui racontait les histoires de la Bible à mes garçons, j'écoutais ça, je disais, moi, j'ai pas eu ce privilège-là de venir au monde sur les genoux d'une mère chrétienne qui raconte les histoires de la Bible à ses enfants dès les premiers instants pour qu'ils puissent entendre Jésus, le nom de Jésus, dans leur vie, ou chanter autour d'un repas, ou aller dans un restaurant et rendre grâce à Dieu. On fait ça dans Gibec, hein? On va dans un restaurant, on est 30, 40, là, puis juste avant de manger, on commence à chanter. C'est à ton tour. Non, non, non. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Il y a 80 personnes dans le restaurant. Ils s'attendent tous à ce qu'on chante. C'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Là, on chante « Rendons grâce ». Là, les gens écoutent, ils veulent savoir. Puis nous, on chante tout bas. On rend grâce à Dieu pour la nourrir. C'est extraordinaire. C'est une vie excitante que la vie chrétienne, quand on sait la vivre de la bonne façon. Les premiers versets que j'ai entendus, c'était à travers un petit pamphlet qu'on appelait « Les quatre lois spirituelles ». Vous vous rappelez de ça? Il y en a qui ont déjà eu ça dans leur mail, les quatre lois spirituelles, oui, hein? Il y avait des lois, c'était Bill Bright, celui qui a mis au monde Campus pour Christ, qu'on connaît dans les universités à travers le monde. Il y a des grands orateurs, des grands prédicateurs, des grands écrivains. Josh McDowell est un des hommes qui fait partie de Campus pour Christ, qui écrit des livres tout à fait apologétiques, extraordinaires, qui rend confus les gens qui ne croient pas au livre de la Bible, à la personne de Jésus, au message de Jésus. Tout à fait extraordinaire. Moi, je connais rien. J'ai 24 ans, je suis un hippie, sans encore de la dope que j'ai vendue à des amis hier, quand mon frère André m'a ouvert les quatre lois spirituelles pour me parler de Jésus. Puis une des lois disait, Dieu t'aime. Dieu vous aime, il a un plan merveilleux pour votre vie. Moi, je viens d'un arrière-plan catholique, fait que Dieu m'aime, je trouvais ça très difficile à croire, pas vous? Hein? On nous parlait plus d'enfer, on nous parlait, ben dans les années 60, là, on nous parlait plus d'enfer, de condamnation éternelle, de vie pourrie sur la terre, qu'on était des bonnes à rien, bien souvent. Le Québécois était reconnu, le Québécois francophone, était reconnu pour être des bonnes à rien, il n'y avait pas grand professionnel, et ainsi de suite comme ça. En tout cas, on vivait dans une atmosphère vraiment décourageante. Mais le verset disait, Dieu vous aime. J'aime ça, moi. Hein? J'aime ça. Hier, c'était le 34e anniversaire de mariage de ma femme. Fait que j'ai décidé de prendre la... Vous connaissez ça, des anniversaires de mariage? J'ai décidé de prendre la journée avec elle. Oui, c'est ça, elle me l'a souligné aussi, là, que c'était notre anniversaire. Puis, j'ai dit, est-ce que je vais avoir assez d'amour pour toi pour au moins un autre 30 ans? C'est dur d'avoir de l'amour pendant 34 ans. Non. Tu sais, Dieu nous aime d'un amour éternel, mais mon amour a des limites. Hein? En tout cas, en jasant ensemble, je me suis aperçu qu'au moins pour au moins 30 ans, mais il ne faut pas m'en demander plus que ça, là. 30 ans encore, ça l'a rassuré. Tu sais, d'avoir encore de l'amour pendant 30 ans. On a besoin d'amour, hein? On a besoin de se faire entendre parler d'amour. Et dans Jean 3, 16, Dieu me parle d'amour. Mais un des versets qui est venu me chercher, c'était Jean 10, 10. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober et détruire. Mais moi, continuez, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Le Seigneur Jésus ne veut pas seulement sauver certains d'entre nous au Québec, mais il a un plan également pour notre vie, un plan extraordinaire, un plan de vie. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie, pas la mort, pas la condamnation, pas le jugement, pas la dévalorisation de soi-même, pas t'es un bon à rien, tu feras jamais rien de bon dans ta vie. Hein? T'es bien le fils de ta mère. Toutes sortes de choses décourageantes comme ça. Non, c'est pas ça du tout, du tout. Le Seigneur Jésus est venu pour nous donner une vie et une vie en abondance. Il avait un plan pour notre vie. Et pour moi qui étais un ancien hippie, un ancien pusher, tu sais, faire face à un verset comme ça, qu'est-ce que ça pouvait dire pour un gars comme moi? Tu sais, mettons, je parle de ça, là. Je donne le verset Jean 10-10 à un homme d'affaires qui réussit dans ses affaires. Quand il entend ça, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance, il voit son compte de banque encore plus gros. Il voit sa Jaguar devenir une Ferrari. Il voit sa femme devenir plusieurs autres femmes, se multiplier à cause de... Eh, qu'est-ce qui se passe? C'est l'abondance. On interprète souvent un verset dans la Bible d'après nos expériences de vie et jamais ou rarement d'après ce que le contexte de la Bible dit ou d'après ce que nous lisons dans les Écritures. Il dit, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » J'ai appris en suivant Jésus que la vie en abondance qu'il a pour nous, c'est une vie qui a un sens. Est-ce que votre vie a un sens ce matin? Il y en a qui disent oui. Est-ce que votre vie a... Vous avez une direction claire, spirituelle dans votre vie? Notre frère parlait ce matin que tous les matins, il y a de la misère. Certains matins, il y a de la misère avec son culte personnel. Pas très à l'aise. C'est dur des fois de prendre une demi-heure même avec son Dieu. Il y a des Québécois qui viennent à Québec et ils prennent 5 minutes par jour avec leur Dieu. On leur dit dans Québec, c'est 60 minutes par jour. Par, on en ramasse à terre. Ils tombent sur la connaissance. 60 minutes avec ma Bible. Qu'est-ce que je vais faire pendant 60 minutes avec ma Bible, avec Jésus dans ma vie? Mais à la fin de l'été, ils s'aperçoivent que toutes les fois qu'ils n'ont pas pu prendre leur temps avec le Seigneur le matin, ça allait mal durant la journée. Qui dirige ta vie? Quelle est la nourriture qui nourrit ton âme, qui te donne une direction dans la vie? Moi, j'ai fait beaucoup de choses dans mon ancienne vie avant de connaître Jésus parce que je n'avais aucune direction dans ma vie. J'ai choisi le monde hippie parce que ça faisait mon affaire. J'ai déjà un peace and love dans la vie. Fait que le monde hippie m'offrait le peace and love, les voyages, fumer un petit peu, les aventures, tout ça de choses comme ça. Ça faisait mon affaire. Mais je n'avais aucune direction dans ma vie jusqu'à temps que je rencontre Jésus comme mon Sauveur et Seigneur dans ma vie. Et là, les choses ont pris un sens différent. Je me suis aperçu d'une chose. De faire ce genre de choses-là, mais il aimait s'arrêter avec les gens. Il aimait ça, prendre un verre de vin avec des gens. Il aimait ça manger avec les pécheurs. Il aimait ça s'asseoir dans la maison des publicains, des gens de mauvaise vie, juste pour saisir l'occasion de leur présenter le message qu'il était venu accomplir sur la croix lorsqu'il a donné sa vie pour nous. Et dans Marc chapitre 1, verset 16, il dit, « Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Intéressant. Verset 18, « Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. » Verset 19, « Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient les filets. » Aussitôt, il les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Le verset 15 nous parle de Jésus. Juste avant le texte qu'on vient de lire, il dit, « Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Le message de Jésus qu'il annonçait à ce moment-là n'était pas un message qui était compliqué. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Par contre, ce n'est pas un message qui est très populaire aujourd'hui. Rare quand on va arriver devant quelqu'un et lui dire, « T'es une pécheresse. Je t'ai vu hier. Oui, tu étais à la mauvaise place, avec la mauvaise personne, au mauvais moment, je t'ai vu. » C'est rare quand on va arriver devant quelqu'un pour la convaincre de pécher. Mais pourtant, le message de l'Évangile, c'est un message de repentance. Un message où est-ce que le péché, quelque part, doit venir dans la conversation si nous voulons que les gens croient que Jésus est le Messie venu sur la terre pour payer la rançon pour ceux qui sont perdus et apporter le pardon aux gens. C'est très difficile. Jésus l'a fait avec la Samaritaine. Il dit, « Va chercher ton mari. » Elle dit, « J'ai pas de mari. » Il dit, « C'est vrai. Tu en as eu 5. Et celui avec qui tu vis, c'est pas ton mari. » Là, tu viens de dire la vérité. Mauvaise vie. Immoralité dans sa vie. Jésus a mis l'accent sur le péché pour finalement arriver à la repentance avec elle. Quand on voit Jésus qui prêche de cette façon-là, on se demande un peu, est-ce qu'on doit avoir le même message aujourd'hui encore? Je suis allé dans le livre des Actes des Apôtres. J'ai regardé, j'ai écouté le message que l'apôtre Pierre a donné dans Acte 2. Et lorsque les gens sont venus le voir pour lui dire, « Homme frère, que ferons-nous? » Il a dit, « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Ou « Faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le même message que Jésus avait en capsule dans Marc chapitre 1, verset 15. Je suis allé un peu plus loin, dans Acte 20, verset 20, l'apôtre Paul, je dis, je vais aller voir ce que Paul prêchait dans son temps. Est-ce qu'il avait le même message que Jésus? Est-ce qu'il avait le même message que les apôtres ont prêché, ceux qui ont connu Jésus, qui ont marché avec lui? Est-ce qu'il avait le même message qu'eux autres? Et dans Acte chapitre 20, verset 20, l'Esprit de Dieu lui a donné 20 sur 20 pour son message. Il dit, « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » La repentance et la foi. Je me suis dit, si c'est bon pour Jésus, si c'est bon pour Pierre, si c'est bon pour Paul, c'est bon pour Yannick. Non? Ça va être bon pour Alexandre aussi, parce qu'il va être un évangéliste. Si c'est bon pour eux autres, dans leur génération, c'est bon pour nous dans la génération d'aujourd'hui. Si nous voulons conduire des Québécois à Jésus-Christ, nous avons besoin de leur rappeler ce message simple de la repentance et de la foi en Jésus-Christ. Jésus a dit, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. On a besoin de se repentir. On a besoin de faire face à nos péchés et on a besoin de croire que le Seigneur Jésus-Christ est puissant par sa mort et sa résurrection à pardonner tous ces péchés-là et à nous remplir de son Saint-Esprit. Maintenant, Jésus est au début de son ministère. Il a la Galilée devant lui. La Galilée, au temps de Jésus, c'est 204 villes et villages. À côté du Québec, c'est un petit lieu. On est 1500 villes et villages au Québec. 3 millions de personnes vivaient en Galilée. On est 8 millions au Québec. C'est quand même un travail très grand quand on regarde ça. Si tu es seul à faire le travail, c'est énorme. Alors, Jésus a eu l'idée de former des disciples. Il a eu l'idée d'inviter des hommes à le suivre pour en faire des pêcheurs d'hommes. Des hommes qu'il a rencontrés, il leur a donné une mission claire, c'était d'être des pêcheurs d'hommes. Verset 17, dans Marc chapitre 1, verset 17, il dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » C'est important de savoir que lorsque nous sommes sauvés, nous ne sommes pas seulement sauvés pour être des enfants de Dieu, mais nous sommes sauvés pour une mission très claire. Le Seigneur a besoin de chaque nouveau-né spirituel pour en faire un missionnaire. Nous sommes appelés à le suivre dans le chemin qu'il a tracé pour nous pour devenir des missionnaires dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. J'ai regardé ces hommes dans Marc chapitre 1. Il parle de Simon. Il parle d'André. Il parle de Jacques. Il parle de Jean. Deux frères. Quand il parle de Simon et il parle d'André, dans le verset 1, dans le verset 16 et 17, il dit au verset 16, « Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frère de Simon, qui jetaient un filet dans la mer. » Je trouvais ça intéressant. Quand il a rencontré ces deux hommes-là, il jetait un filet dans la mer. Maintenant, je lis un peu plus loin. Avec Jacques et Jean, je me dis, il devait faire la même chose. Verset 19, il dit, « Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient les filets. » Réparer des filets. Qu'est-ce que ça veut dire dans la mission de devenir un pêcheur d'hommes? Tous les quatre font un travail de pêche. Deux jettent le filet, deux réparent les filets. Je dis, peut-être que ça a un lien avec le fait de la mission qu'il leur a confiée, de devenir des pêcheurs d'hommes. Quand j'ai regardé plus tard l'apôtre Paul, avant de devenir un chrétien, avant de devenir un missionnaire pour Christ, avant d'être un implanteur d'église, il était un homme avec le métier de faiseur de tentes. Un faiseur de tente était appelé à se déplacer régulièrement à cause de son métier, de visiter les grandes villes, les grandes agglomérations, d'installer sa tente de vente d'entrepreneur et de faire des tentes et d'offrir des services, d'avoir, de faire des tentes pour les gens. C'était un faiseur de tente. Quand il s'est converti, le Seigneur Jésus a gardé ses aptitudes habiles de sa vie, puis il en a fait un implanteur d'église, un homme qui parcourait les grandes villes des provinces de l'Empire romain et qui implantait des églises de Jésus-Christ dans chacun de ces endroits-là. J'ai réalisé que le Seigneur Jésus, quand il nous appelle à lui, nous garde dans notre tempérament. Il nous laisse notre tempérament. Il ne fera pas de moi ce que je ne suis pas. Mon frère André, qui m'a conduit à Christ, c'était un mordu de la littérature. Il prenait l'autoroute juste pour laisser un traité au gars qui recevait son 30 sous. Il s'arrêtait à tous les postes de payage. Ça allait bien plus vite à côté, mais il s'arrêtait au poste de payage pour laisser un traité au gars qui était là, parce que c'était un mordu de laisser de la littérature aux gens. Moi, j'ai essayé, peut-être parce que j'étais trop petit, peut-être parce que mon char était trop bas, mais j'étais bien mal à l'aise de laisser un traité au gars qu'il y avait là. J'aime plus une relation, j'aime plus entrer en contact avec les gens que de lui laisser un traité puis continuer mon chemin comme ça. Pourtant, André a son tempérament et moi j'ai le mien. Et depuis que j'ai accepté d'être moi-même dans la vie chrétienne, ça va beaucoup mieux dans mon rôle de missionnaire. Je fais un travail pour Dieu qui répond à mon tempérament. Ma personnalité, mes aptitudes de vie, mes habitudes, ma façon d'entrer en contact avec les autres. Alors, ce que j'ai fait, j'ai regardé le profil de chacun de ces hommes-là. J'ai regardé le profil d'André. André, le frère de Simon. C'est jamais Simon, le frère d'André. Vous avez remarqué? C'est toujours André, le frère de Simon. Ah, salut André, le frère de Simon! C'est pas, il me semble que j'aurais aimé ça, me faire appeler André. Juste André, tu sais. Ou Guy, le frère de Guy. Ah, Guy, le frère d'André. Ah, Guy, le frère. Mais peux-tu juste m'appeler Guy, s'il te plaît? M'appelle Guy, tu sais. J'ai un prénom. C'est toujours André, le frère de Simon. Et André, quand je regarde l'Évangile de Jean, si vous allez dans l'Évangile de Jean, dans le premier chapitre, au verset 41, André et Jean sont tous les deux qui rencontrent Jésus en premier. Tous les deux, après avoir rencontré Jésus, courent pour aller chercher leur frère. Et c'est André qui conduit son frère Simon à Jésus. Fait qu'André, c'est un gars qui aime conduire une autre personne à Jésus. Jean chapitre 6. Il y a du monde qui vient au pique-nique que Jésus a organisé. Le seul problème, c'est que les gars n'ont pas assez d'argent pour acheter de la nourriture pour tout le monde. Imaginez si le pasteur disait ce matin, « Je vous invite tous à dîner à mes frais. » Je pense qu'il y aurait un petit meeting avec Esther. Le budget sauterait de quelque manière. Mais Jésus invite, il a l'intention d'inviter tout le monde à un pique-nique. Et c'est lui qui pourvoit la nourriture. Où tu vas trouver l'argent, Jésus? Philippe lui dit, où tu vas trouver l'argent? Même 200 deniers, qui était le salaire de 200 ouvriers pendant une année de temps, ne serait pas suffisant pour nourrir ces gens-là. Mais il dit, donnez-leur vous-même à manger. Et là, André, il arrive avec un petit garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Les poissons, ça devait être des baleines. Hein? Il faut que ça soit des baleines. Hein? Puis les 5 pains, en voulant dire, j'ai 5 compagnies de pain. Il y a Première Moisson, il y a Guy Luron, il y a 5 qui sont prêtes à donner leur pain qu'ils ne peuvent pas vendre dans les épiceries. Ils sont prêts à le donner à ces gens-là. Alors Jésus, ça t'intéresse, un petit miracle? André voit un petit gars avec 5 pains de bois. Qu'est-ce qu'il fait? Il conduit à Jésus. Dans Jean chapitre 12, il y a une gang, un petit groupe de Grecs qui sont là. Et ce petit groupe, ils veulent voir Jésus. Ce n'est pas des Juifs. C'est une fête à Jérusalem. Ils sont là en pèlerinage. Ils viennent voir Jésus. Ils le voient, ils entendent parler de lui. Jésus est là à ce moment-là. Quelle coïncidence! Puis là, ils veulent voir Jésus. Fait qu'ils disent à Philippe, on peut-tu voir Jésus? Et là, Philippe est tout mal à l'aise, parce que c'est pas son genre à Philippe. Mais Philippe lui dit à André, qu'est-ce qu'on fait? Mais il dit, on va les conduire à Jésus. Et André et Philippe conduisent ce petit groupe de Grecs à Jésus. J'ai trouvé ça intéressant d'André. Dans le livre des Actes, on n'entend pas parler d'André. Dans le livre des Actes, c'est la prédication de masse. C'est le filet qui est lancé. C'est par milliers que les gens viennent à Jésus. Et André, c'est pas son domaine, ça. C'est pas un prédicateur de masse. C'est le gars qui représente dans la mission le 1-1. Un homme avec un homme, une femme avec une femme, un couple avec un couple, un petit groupe avec un petit groupe, un homme avec un moniteur d'école du dimanche, avec des enfants, les louveteaux, il va organiser des choses. Toujours 1-1 ou en petit groupe ou quelque chose comme ça. Parfait à l'école du dimanche. Mais on ne peut pas demander à un moniteur d'école du dimanche de venir en avant prendre la place de Yannick dimanche prochain. C'est ceux qui ne viennent pas. C'est ceux qu'on célèbre son enterrement avant que la prédication arrive. Il est mort de peur. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais André, c'était ça. Et il représente dans la mission de pêcher des hommes les gens qui sont habiles de 1-1, qui aiment les relations, qui aiment le contact personnel, qui vont inviter quelqu'un à prendre un café à la maison, un bain, un compagnon de travail à qui il y a eu l'occasion de témoigner puis lui dit, écoute, pourquoi tu ne viendrais pas souper à la maison ce soir? Hein? Je t'offre le repas, puis après ça, on jasera ensemble. Je me rappelle une fois, on est allé manger dans un restaurant. Tout d'une gueule. On préparait MTL 86. Fait que toute une gang d'évangélistes qui sont là, des zélés, tu sais, des passionnés, là. On est là à la table. Puis là, un moment, toute la table où est-ce que j'étais assis s'en vont aux toilettes. Je sais pas si quelque chose avait cliqué dans leur tête. Tout le monde s'en va aux toilettes. Moi, je reste assis là. Là, je réalise qu'il y a une dame dans l'autre table qui me regarde. Je la regarde, elle me regarde, elle a quelque chose à me demander. J'ai dit, bonjour, on se connaît? Elle dit, non, on se connaît pas vraiment, mais elle dit, je vous ai entendu parler de Jésus. Elle dit, vous êtes qui, vous autres? Alors, j'ai dit un peu qui nous étions, ce que nous sommes en train de faire, préparer MTL 86. Oh, elle dit, j'aimerais ça, elle dit, entendre ça. Mais j'ai dit, madame, si vous venez à l'église dimanche matin chez nous, je vous invite à dîner après ça. Ils viennent jamais. J'ai même pas averti ma femme qu'on aurait quelqu'un à dîner. Ils viennent jamais ici. Tu sais, on est des puces étrangers, on se connaît pas. Diane, elle s'appelle Diane, là. Ici, elle parle sûr que ça s'appelle Diane. On se connaît même pas. Pourquoi qu'elle viendrait dîner chez nous? Qui je suis? Tu es peut-être un bon Don Juan, là, qui est en train de lui chanter la pomme, là, puis je vais l'inviter avec un petit vin, puis quelque chose comme ça. Pas du tout. Elle est à l'église le dimanche, elle va pimper, oui. J'ai dit, Manon, il faut que je te dise. J'ai rencontré une femme. Comment t'as rencontré une femme? Tu t'es expliqué ça, là. Avant l'offrande, en plus, c'est dur. Fait que j'ai dit, non, c'était cette semaine, puis je l'ai invité à dîner, puis elle est là. Ben, du coeur, on va l'inviter à dîner. Elle vient dîner à la maison, elle nous regarde vivre, on prie avant de manger, nos trois petits gars sont là, c'est tous des petits monstres. Tu sais, quand t'es jeune, là, petits monstres, ça bouge tout le temps, puis ça parle tout le temps, puis tout ça. En tout cas, on prie avant de manger, elle reste avec nous, pose tout de questions, puis elle accepte Jésus dans l'après-midi. Elle s'appelait Diane. Professeur dans une école privée, de français dans une école, une femme très cultivée avec la musique classique, ce genre, l'opéra surtout, là. Elle aimait beaucoup l'opéra. Moi, je suis le contraire de ça, moi. Moi, c'était du Bob Dylan. C'est ce genre de musique. Elle, c'est de l'opéra. Rien à voir avec ça, juste la relation avec elle. Aujourd'hui, elle est encore à l'église, elle sert le Seigneur dans son église locale, et c'est extraordinaire. Les relations. Moi, c'est ça. J'aime ça, les relations. C'est mon genre à moi. Je suis comme André, moi. Je fit dans cette mission-là. Là, je regarde son frère Simon. Là, je regarde Simon. Je regarde dans l'Évangile de Jean. Rien. Marc, rien. Matthieu, rien. Luc, rien. Il n'a jamais conduit une personne à Christ dans les Évangiles. Jamais. Mais pourtant, Jésus dit, « Suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. » 3 ans à former un gars comme Simon. Il avait à former son leadership. Parce que ce gars-là, il allait devenir un prédicateur vraiment influent pour l'Évangile. Il allait être celui qui allait représenter le groupe des 12 dans Acte 2, lors de la fête de la Pentecôte, pour prêcher à des milliers de personnes. C'est lui qui a répondu, « Repentez-vous. » Et soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et 3000 Juifs, cette journée-là, se sont repentis de leurs péchés, ont reconnu Jésus comme étant le Seigneur, le Sauveur, se sont fait baptiser et sont devenus membres de l'Église de Jérusalem. Moi, je ne suis pas Pierre. Êtes-vous Pierre? Qui aime ça prêcher en avant? Je parlais avec Annick tantôt, il dit, « Moi, je prends 2 semaines de vacances pendant l'été, je reviens après, puis je suis nerveux comme un... » Je suis nerveux quand je viens en avant pour m'adresser à l'Assemblée qui est là. Pierre, ça n'avait pas l'air d'être ça. Acte 5, 5000 personnes se convertissent au Seigneur. Ça, c'était le gars qui lançait le filet. André, lui, c'était la pêche à la ligne, à la mouche. Il voyait quelqu'un. C'était son genre de pêche, ça. C'était sa façon de vivre. Mais Pierre, lui, ça y prenait du monde. Ça y prenait toujours des foules. C'est lui qui était devant le Sanhédrin puis qui défendait l'Évangile. C'est lui. C'était pas Jacques, c'était pas Jean, c'était pas... Non, c'était Simon qui était là. Et partout, est-ce qu'on voit? Acte 9, il décide d'aller faire des petites visites de maison. Il arrive dans une ville, il y a un homme qui est malade, il s'appelle Aîné. Il guérit Aîné, toute la ville se convertit. Ça, c'est fort, ça. Toute la ville se convertit. Il va dans une autre ville, il y a une sœur qui est morte, une chrétienne qui est morte, elle s'appelle Dorcas. Fait qu'ils la font venir, « Hey, Pierre, viens ici, ta-ta-ta-ta. » Dorcas ressuscite entre les mains. Presque toute la ville se convertit. Oh, j'aimerais ça faire un petit miracle ici, là. Aimeriez-vous ça d'avoir un prédicateur de masse comme ça, quand il va dans une ville, pouf, une petite guérison ici, pouf, toute la ville se convertit. Hey, on n'en implanterait pas des églises locales, non? Puis là, il y a un certain Corneille, il vole assez haut, ces Corneilles-là. Là. C'est même pas un juif. Certain Corneille, qui lui a entendu parler, puis qui veut savoir ce que Simon a à lui dire. Mais Corneille n'est pas tout seul dans sa maison. Quand Simon-Pierre arrive là, Corneille dans sa maison, il a invité toute sa parenté, ses amis, tout le monde est là, sont une vingtaine et plus dans la maison. Il n'aurait pas pu être seul un peu? Hein? Jamais. Avec Simon, c'est jamais le 1-1-1. Il m'a fait penser à Jacques Marcoux dans les années précédentes. Jacques Marcoux, je l'ai vu à l'œuvre, j'ai grandi avec lui. Il est venu au Seigneur à Sherbrooke, s'est organisé des GE qui étaient là. Il était toujours la masse, toujours la prédication. Il avait toujours quelque chose à dire. C'était toujours bien structuré. C'était un scientifique dans sa tête. Hein? Il a toujours été scientifique, puis il l'est encore scientifique. Il aime ça. Quand c'est bien structuré, tous les détails sont pensés. Il manque rien. Tu sais, il bâtit pas une maison en oubliant de mettre la pierre angulaire. C'est pas long, s'il y a un vent, pshou, la maison va s'écrouler. C'est la pierre angulaire qui tient la maison. Genre qui est comme ça. Fait que je l'ai vu à MTL 82, 83, 80, toujours le même prédicateur. Et les gens avançaient comme ça. Je me rappelle, j'avais un gars, je suis allé évangéliser chez eux. Sa femme était chrétienne. Puis sa femme a dit, faut que tu conduises mon mari au Seigneur. C'est le fun, hein? On m'en met des responsabilités sur les épaules, hein? Elle m'invite pas à souper, elle dit, « Faut que tu viennes chez nous conduire mon mari au Seigneur. » Ben oui, c'est pas ça, m'en met des responsabilités à moi, là. Je dis, « OK, je vais aller. » Fait que je suis allé. Tu sais, quand on confie aux autres le soin de conduire quelqu'un d'autre au Seigneur, puis s'il le fait pas, là, on commence à le juger, hein? Hein? On se juge pas soi-même, on juge les autres, par exemple. En tout cas, je vois chez eux, Richard, il vient pas au Seigneur. « Il est dur! » On ouvre la Bible, « Il est dur! » J'ai dit, j'ai besoin d'aide. Je vais chercher un diacre de l'église qui était vraiment un bon évangéliste. Serge, on va ensemble. On s'assied avec Richard. On y parle de l'évangile. Il dit, oui, je suis prêt. Il accepte Jésus. Il prie. Rien à faire. Il ne se convertit pas. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est un hiver. Il fait froid en février. Grosse tempête de neige. Une fin de semaine. L'église de Charny décide d'inviter Jacques Marcoux pour une conférence comme ça. Fait que là, j'appelle Richard. Je dis, Richard, Jacques Marcoux, il est là. Je sais que j'en avais parlé avec ma femme avant. J'ai dit, je n'appellerai pas, mon ami. C'est sûr qu'il ne viendra pas, Richard. Il y a la tempête de neige, une bonne raison en plus pour ne pas se déplacer. Mais je l'appelle, il dit, OK, je vais aller. Fait que je se retrouve là. Là, Richard, là, Jacques Marcoux prend à peu près la même chose qu'on a toujours présenté, Serge, moi, puis les autres. Là, du coup, il y a Richard qui s'avance en avant. C'est le seul qui s'avance en avant. Il n'y a presque pas de monde. C'est une grosse tempête de neige. Puis quand il neige à Québec, il neige trois fois plus qu'à Montréal, hein? Il y en a de la neige là-bas. Tu sais, quand tu vois plus les maisons, c'est parce qu'il a neigé cet hiver à Québec, tu sais. Mais c'était ce genre d'hiver-là qu'on avait à Québec cette année-là. Il s'est rendu, Richard Toupin était là, ils ont chanté, puis quand ils chantaient en avant, Richard s'est avancé, s'est converti, il est encore chrétien aujourd'hui, il est dans l'église. C'est Richard Alexandre, comment j'oublie son nom. Quand tu arrives à 60 ans, tu comprendras. La mémoire, c'est des choses qui se perdent en vieillissant. Fait que Simon, c'est le prédicateur de masse. Vous en connaissez des prédicateurs? Il y a un Tony Anthony qui est venu dernièrement. Non seulement il s'appelle Tony, mais on l'a appelé Anthony en plus. Antoine, c'est fort. T'sais. Moi, j'ai appelé mes trois gars Antoine. C'est Olivier Antoine, Toby Antoine, puis Jérémy Antoine. Parce qu'Antoine veut dire incomparable. Puis j'ai jugé que naître dans une famille la voix, il fallait être incomparable vraiment pour arriver à ça, tu sais. J'arrive dans les versets suivants. Ces gars-là réparent les filets. Ils réparent les filets. Donc, ce n'est pas des lanceurs de filets. Ce n'est pas des pêcheurs à la ligne. Ils doivent être différents. Je vois leur profil. Je vois Jacques, conduit personne au Seigneur dans les évangiles. C'est Jean, son frère, qui le conduit au Seigneur. J'arrive dans les Actes, il ne conduit personne au Seigneur. On n'entend pas parler de Jean. On arrive dans Actes chapitre 12, il se fait arrêter, Jean. Hein? On entend parler de lui dans les Actes, il se fait arrêter et on lui tranche la tête. Jean, il n'a pas conduit personne. Pourtant, il est dans la mission de pêcheur d'hommes. C'est là dans les versets. Jacques est mentionné là. Mais il n'a pas conduit personne au Seigneur. Jacques m'a fait penser à ceux qui offrent leur vie en sacrifice pour que la mission puisse continuer. Jacques a offert sa vie en sacrifice pour que la mission puisse continuer. J'ai dit, dans l'Église, il y a beaucoup de gens. On n'est pas au point d'offrir notre vie en sacrifice, verser notre sang pour que la mission puisse continuer. Mais dans l'Église, il y a beaucoup de gens qui font des sacrifices. Les gens qui vont à l'école du dimanche, en même temps qu'il y a la prédication, ces gens-là se privent toujours de la prédication, et c'est un sacrifice de n'être pas là quand la prédication est là, quand le prédicateur est là, quand les gens rient. Les gens qui écoutent un message sur CD, « Ah, oh, il a ri. Oh, ben, il a... là, il rit, il essaie de rire parce que tout le monde a ri dans l'Assemblée. Ils n'ont pas vu la face du prédicateur. C'est dur de rire de la même intensité que... Mais ils ont fait un sacrifice d'enseigner l'école du dimanche au lieu d'être en avant. D'autres font des sacrifices en donnant aux missionnaires. Ils vont donner de leur argent. Ils vont se sacrifier un petit peu pour que la mission puisse continuer. Il y a des hommes qui sont en temps plein, qui sont des missionnaires, ils ont mis leur travail de côté. Jacques et Jean ont mis leur travail de côté. André et Simon ont mis leur travail de côté. C'était des hommes d'affaires, ils gagnaient de l'argent. Ils ont mis ce revenu de l'autre côté pour être missionnaires à temps plein. Ces gens-là soutenaient le ministère de Jésus. Ils faisaient des sacrifices d'argent. D'autres, ce sont des sacrifices de temps. Je me rappelle, dans l'Outaouais, on a acheté une maison qui avait de la mioufe dans les murs. Rappelez-vous de la mieuvre, dans le temps de la mieuvre. C'était une odeur, ça tuait les gens, en tout cas. Moi, je ne voulais pas que ma femme meure là-dedans. Je serais tout seul à faire les repas. Puis, tu sais, c'est long. Puis, quand tu as 3 petits-enfants, tu sais, t'aimes ça, quelqu'un, tu sais, puis là, faire le ménage à la maison. T'es pasteur d'église, tu sais. Faut que tu reçoives ton monde chez vous, tu sais, mais quand même. Non, c'était pas pour ça. Mais il y avait de la mieuvre dans les murs. Fait là, on achète la maison, on décide d'acheter la maison, ça part. Puis là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec la mieuvre? Faut enlever ça, c'est la mieuvre. Moi, je suis tout, mais pas habile. Des mains, là. Mettez-moi un cadre, puis il va être beau. C'est correct, tu sais. Il faut que ma femme, elle passe après, puis elle lève le cadre comme ça. Je suis pas habile, mais qui va enlever ça? Comment est-ce qu'on... Tout à coup, un frère arrive, il frappe à la porte chez nous, on vivait à Ottawa dans ce temps-là. Il dit, je suis prêt à te donner une semaine de mes vacances pour t'aider à enlever ta mioufe. Je reçois un téléphone, un autre frère de l'église. Il dit, c'est quand est-ce que tu fais, tu pensais enlever ta mioufe? Je pensais à cette date-là. Il dit, OK, j'ai mes vacances, je te donne une semaine de mes vacances aussi. Finalement, presque tous les hommes de l'Église avaient sacrifié une semaine de leur temps pour venir m'aider à enlever la mieuf des murs de ma maison. Et cette semaine-là tombait en même temps que j'étais prédicateur au camp des Bouleaux. C'est extraordinaire à votre goût. C'est-tu bien géré les affaires, ça? Il dit, j'ai de l'entrepreneurship, mais plus que je regarde en arrière, plus que je m'aperçois que j'en ai. J'ai même pas été là. J'ai même pas été touché par la mieuf. Les autres sont morts un après l'autre, mais c'est... On peut se remarier quand on est veuve. Ça, c'était Jacques. Jacques a offert sa vie en sacrifice pour que la mission puisse continuer. Parce qu'Hérode avait perdu la tête, il faisait tuer les leaders, puis ce genre de choses-là. Fait que Dieu est intervenu providentiellement, puis a sauvé la vie de Pierre, parce que Hérode avait fait arrêter Pierre. Mais quand j'ai lu tout le contexte de Actes chapitre 12, je me suis aperçu qu'il y avait deux visiteurs qui étaient à Jérusalem à ce moment-là. Ces deux visiteurs-là, on les appelait Paul et Barnabas. Mettez-vous dans les bottines d'Hérode. Il fait arrêter les leaders, il en fait tuer un, ça fait plaisir aux Juifs. Il fait arrêter Pierre, il va le faire tuer aussi. Il entend parler que Paul et Barnabas sont à Jérusalem parce qu'ils sont venus apporter des offrandes à l'église de Jérusalem. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va vouloir faire? Arrêter Paul et Barnabas, c'est ce que j'en ai déduit, pour les faire mettre à mort, comme il avait décidé de faire mettre à mort les leaders à Jérusalem. La mort de Jean a permis à Dieu d'intervenir contre Hérode. C'est lui-même qui a attaqué Hérode, qui l'a fait tuer par un ange, pour libérer Pierre et libérer Paul et Barnabas pour qu'ils puissent continuer. Dans Acte 13, c'est là que Paul et Barnabas sont mis à part pour annoncer l'Évangile dans tout l'Empire romain. On peut donner sa vie comme ça, en sacrifice pour la mission, et voir Dieu étendre. Le dernier, mais non pas le moindre, c'est Jean. Jean, dans les Évangiles, ne conduit personne au Seigneur, à part de Jean 1, il conduit son frère Jacques au Seigneur. À part ça, il n'en conduit pas. Tu arrives dans les Actes, c'est toujours Pierre et Jean. C'est jamais Jean et Pierre. C'est Pierre et Jean, Pierre et Jean, Pierre et Jean, Pierre et Jean. Pourquoi? C'est toujours Pierre qui parle, donc c'est lui le leader des deux. Dans les Actes, quand arrive Paul et Barnabas, c'est toujours Barnabas et Saul, Barnabas et Saul, Barnabas et Saul. Mais comme c'est Paul qui apporte la parole, ça devient Paul et Barnabas, Paul et Barnabas, Paul et Barnabas. Hein? Toujours comme ça. Le tandem, le travail d'équipe. Et ce que j'ai remarqué avec Pierre et Jean, c'est l'évangéliste, c'est un contexte d'évangélisation, et le pasteur. Dans l'église, c'est le pasteur avec l'évangéliste. Quand on a engagé Noël Morissette chez nous, il s'est présenté en avant. Il dit, moi, je suis l'évangéliste dans l'église. Il dit, je ne prêcherai pas. Je ne suis pas un prédicateur. Mais je vais vous déranger, par exemple, parce que je vais aller vous chercher. Puis on va mettre sur pied un filet, un genre d'évangélisation à l'intérieur de l'église. Mettre sur pied un filet. Puis on va aller chercher tous ceux qui nous visitent le dimanche matin à l'église ou dans les réunions que nous avons. Et nous allons les suivre par la suite. Il a organisé, vous êtes au courant avec ce filet-là. Et chose... Noël, il prêche rarement à l'aider chez nous. Parce qu'à chaque fois qu'il prêche, il évangélise. Mais on ne peut pas évangéliser des chrétiens, fait qu'on ne le fait pas prêcher le moins possible. C'est toujours Louis qui prêche, parce que c'est lui l'enseignant, le pasteur. C'est l'évangéliste, le pasteur, dans le contexte du livre des Actes des Apôtres. Évangéliste, pasteur, ça matche ensemble. Fait que Jean, on ne le voit jamais prêcher. On n'entend pas son message. Mais ce qu'il a fait, il a écrit l'évangile de Jean. Lui, c'est l'évangélisation par le papier. Alexandre a parlé du 1 million tantôt, là. Ça l'évangélise avec ça, vous saviez ça, hein? J'ai utilisé ça l'année passée à l'église de Grimbay. Il y avait la foire commerciale sur la rue principale à Grimbay. Puis on nous envoie deux par deux pour évangéliser les gens qui sont là. C'est assez facile, c'est difficile d'évangéliser les gens à une foire commerciale. La musique joue, on veut acheter le bargain qui est là. On va là pour dépenser. On va pas là pour s'asseoir puis écouter quelqu'un qui nous parle de l'Évangile. En tout cas, je savais pas comment faire, comment m'introduire à quelqu'un ou des gens comme ça. J'avais la fille du pasteur à côté de moi. J'avais l'impression qu'il lui avait dit à sa fille, là, va voir comment M. Lavoie il fait. Tu me diras après ça ce qu'il a fait de bien et ce qu'il a fait de mal. Comme ça, dimanche matin, dans ma prédication, je vais avoir quelque chose à dire à l'Assemblée. Fait que sa fille m'a accompagné, j'arrive là, puis là, je vois le paquet de monde, il y a du monde, il y a des tables dans la rue, les choses sont à vendre, et ça, comme ça. Puis je vois une femme qui est assise à une table de pique-nique, puis à côté, il y a un stand de musique, puis son fils est là en train de magasiner pour la musique. Puis je vois vers la femme, puis je dis, OK, on va s'introduire avec le billet d'un million. On va l'utiliser. Tu dis, bonsoir, madame, bonjour, madame. Ça va bien? Oui, je ne vous dérange pas trop. La musique, ça se voit. Je dis, non, non, ça va, tout ça. Je dis, madame, j'ai quelque chose à vous offrir. Je vous offre $1 million ou une place au ciel. Qu'est-ce que vous choisissez? Elle dit, je vais prendre la place au ciel. C'est une Québécoise là, qui a répondu ça, là. Je vais prendre la place au ciel. J'aurais pu dire une 649 ou un, je ne sais pas, les numéros qui existent, là. Mais elle dit, je vais prendre une place au ciel. Mais je dis, madame, je ne comprends rien. Comment ça? Pourquoi vous allez prendre une place au ciel? Mais elle dit, je viens de perdre mon mari il y a quelques mois. Fait, je pense à lui souvent. Puis je me demande s'il y a quelque chose de l'autre côté ici, si je vais aller le rejoindre après, et ainsi de suite comme ça. Moi, je ne savais pas que cette femme-là avait vécu une mortalité. Dieu le savait. De tous les gens qu'il y avait là, la seule façon vraiment d'entrer en contact avec elle, c'était par la littérature, en lui offrant quelque chose à lire. Parce qu'il y avait du bruit, difficile d'avoir contact avec elle. Finalement, j'ai pris son adresse, son numéro de téléphone, et l'Église l'a suivi par la suite, et il semble que c'est un bon contact. L'écrit. Moi, j'ai été conduit à Christ avec Jean 5, 24. Je pense que Jean a conduit plus d'âmes à Christ que Pierre. Avec ses écrits. Il y a des gens, c'est d'écrire. Tous les théologiens écrivent. Les pasteurs écrivent leurs messages. Aujourd'hui, on a les CD, les DVD qui mettent les messages en abondance dans nos mains. On peut rouler sur la route. Et avec ça, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui. La littérature. quel est votre moyen de servir le Seigneur dans la mission? Est-ce que c'est comme André? Est-ce que vous êtes des André? Un petit groupe, un enfant, couple avec couple, des petits groupes dans les maisons. On a ouvert chez nous un groupe maison le jeudi soir, on reçoit des gens chez nous. Le Seigneur amène des gens dans notre maison. Avant, on avait la porte fermée, personne ne venait. Là, on a ouvert la porte, aller avoir un petit groupe maison. Il y a des gens qui viennent écouter les messages, l'enseignement qu'on apporte chez nous à la maison. Un petit groupe. Est-ce que c'est Pierre? Combien sont prédicateurs de masse? Combien tu pourrais se présenter en avant puis prêcher un message de l'Évangile clair que les gens puissent être en mesure de répondre à ce message-là? Combien sont comme Jacques? Oh, ils prêchent pas beaucoup. Oh, on les voit pas beaucoup dans de l'évangélisation de un à un même. Mais ils sont toujours là quand vient le temps de donner, soit de leur énergie, soit de leur temps, soit de leur argent ou la prière. Ils vont se lever le matin pour aller dans un groupe de prière qui intercède dans un ministère d'évangélisation. Ils sont là. Ou comme Jean, qui sont capables d'écrire des traités ou des livres, sont capables de faire quelque chose. La mission est mise devant nous. Et c'est à nous à relever le défi. Si chacun de nous, durant l'année qui vient, on découvre qui nous sommes, selon notre tempérament, notre caractère, notre personnalité, nos aptitudes, nos habitudes de vie, je vous assure d'une chose, que l'Église va doubler. Parce que tout le monde va être engagé dans la mission. Jésus a dit, « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et quand le Seigneur s'engage, avec une promesse comme celle-là, vous pouvez être sûr qu'il va faire de chacun de nous des pêcheurs d'hommes, des missionnaires engagés dans le salut des Québécois. Êtes-vous prêts à relever le défi? Êtes-vous prêts? Seigneur notre Dieu, nous sommes en prière ce matin, ici. Ce texte de ta parole nous ouvre les yeux sur la possibilité de servir. Et je sais, Seigneur, que plusieurs sont empêchés de servir dans la mission parce qu'ils se comparent à d'autres. Ils ne voient pas qu'ils ont les talents que d'autres ont. Et à cause de ceci, ils sont immobiles, ils sont empêchés de s'engager dans la mission. Mais ce matin, tu as été clair devant nous. Tu nous as présenté les quatre possibilités avec lesquelles nous pouvons devenir des missionnaires. Je te prie, notre Dieu, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Il est capable de faire de nous des pêcheurs d'hommes. C'est lui que Jésus a envoyé pour être puissant, pour remplir les témoins de Christ de la puissance de Dieu afin de conduire d'autres à Christ. Une seule et même mission, pêcheurs d'hommes. Des façons différentes de présenter l'Évangile à d'autres. Mais c'est toujours le même résultat, conduire d'autres à Jésus-Christ. Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus. Amen.
Merci, Guy.